Yep, bonjour tout le monde, bonjour toujours Lulu, ma femme et les autres.
Bonjour tout le monde aussi.
Voilà, on en est au dixième. C'est incroyable, on arrive à deux chiffres.
Ouais.
C'est magnifique, on l'a fait. Bon bah maintenant, qu'est-ce qu'on fera après, hein?
On continue. De mieux en mieux, toujours.
Alors, pour ces vacances, c'est incroyable, mais on a plein de trucs qui se passent quand même, alors que normalement, juillet, août, c'est calme. On a Google qui tue la presse belge. Allez, on va quand même en parler un peu, parce que c'était fun, ça. Enfin, pas pour tout le monde, mais d'un point de vue extérieur, c'était fun. Les virus qui s'attaquent au web banking, t'as justement Vector qui en reparlait encore il y a 10 minutes sur la chatbox. Mais quid de la responsabilité, c'est un détail dont on avait essayer de commencer de parler, mais qu'on n'avait pas le temps dans les autres podcasts. Qu'il y a un truc sur Apple, ça ne doit pas être moi qui l'avais mis dans la liste, mais c'est pas grave. N'est-ce pas? iPhone 5, iOS 5, iPad 3.
Oui, effectivement, apparemment, le refresh rate s'accélère chez Apple.
Ce serait toi qui as mis ça dans la liste du podcast?
Oui, c'est moi qui ai mis ça, effectivement. C'est quand même un truc que je suis un peu de loin et force est de constater que Apple semble mettre les bouchées doubles pour conserver sa position monopolistique sur les marchés où il est dominant pour le moment.
Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore des petits trucs de faits divers.
Le brave agriculteur qui a tué le web à coups de tracteur en France.
Les problèmes de... Le petit Nivellois qui s'est fait tuer aussi, d'ailleurs, on va en reparler, mais on reviendra avec tous les détails plus tard sur... point par point, faire un petit peu de pas de rubrique des chiens écrasés, j'ai pas fait quand même, mais
non,
justement de voir
fait divers.
Voilà. Merci de me sauver de ce mauvais pas.
Du fait divers de l'IT. Ça existe, on l'a pas inventé, c'est vrai.
Oui, parce qu'on est presque en hiver, hein. On est déjà novembre, fin novembre, début décembre. On est parti?
On est parti. Bon, donc premier sujet du jour. Google tue la presse belge. Bon, alors évidemment, ouais. Comme ça fait peur. Mais bon, on va revenir peut-être un petit peu rapidement sur l'historique des faits. Donc, il y a quelques mois, résultat de je ne sais pas combien de procès,
Des années, hein.
Etc. Ben, CopyPress, qui est représentant de pas mal d'organes de presse belge, réussissait à avoir un verdict en appel, si ma mémoire est bonne, et une injonction contre Google qui interdisait au moteur de recherche d'indexer dans son service Google News les entrées des principaux journaux, donc on parlait L'Histoire, Libre Belgique, etc., qui étaient affiliés à CopyPress. Alors, évidemment, Google avait marqué le coup, mais avait obtempéré relativement rapidement. Et donc, très vite, toutes les références et tous les articles que Google indexait avaient disparu. Pas mal de voix s'étaient élevées contre l'aspect un peu brutal de la pratique, surtout du côté CopyPress, dans le sens où bon, Google News est quand même un service extrêmement pratique, comme pas mal d'autres services Google, et ça permettait de voir le matin, en buvant son café avant de commencer à bosser, quels étaient les principaux titres de l'info. Alors, apparemment, ce qui s'est passé, c'est que Google, avec la subtilité qu'on lui connaît, a décidé de contre-attaquer, mais tout simplement en refusant d'indexer, en arrêtant d'indexer les sites incriminés, non plus au niveau de Google News, ce qui avait déjà été fait, mais carrément au niveau du moteur de recherche. Et donc c'est comme ça que tout un pan de résultats relatifs aux articles publiés dans les sites de ces journaux, Le Soir, etc., se sont retrouvés tout simplement introuvables. Et donc là se pose la question, c'est est-ce qu'ils sont en train de jouer à qui est le plus con?
Oui, alors bon, il y a eu pas mal de remous sur le web. Certains disaient, c'est bien fait pour la gueule à CopyPress. D'ailleurs, on a même eu des articles dans Le Soir.
Oui, il y a eu une lettre ouverte.
CopyPress n'avait qu'à s'en prendre qu'à lui-même parce que c'est lui qui brisait la neutralité du web. Je suis pas totalement d'accord sur le fond parce que dans un sens, c'est vrai que l'article quand il est lu par Monsieur Tout le Monde, la demande des avocats de CopyPress la construction des phrases sont un petit peu différentes en général dans le jargon juridique. Et ici, effectivement, je pense que dans le chef des avocats de CopyPress, il demandait réellement que la suppression de Google News et du cache de Google. Bon, le fait de pouvoir se faire supprimer du cache de Google, c'est assez facile, on peut le faire avec un robot.txt. Mais de se faire supprimer de Google News, en tout cas, je pense pas que ce soit prévu aussi facilement, je me trompe peut-être.
Non, c'est pour ça qu'il a fallu aller jusqu'à l'injonction en appel, en fait.
Oui, et même si certainement un coup de fil aurait peut-être été plus sympathique que directement de balancer les avocats, mais voilà, ça c'est la vision CopyPress. Certainement pas la plus sympathique possible, mais bref, on n'est pas là pour juger, bon, aussi un peu. Et mais Google s'est un petit peu retranché derrière le, allez, c'est facile, on le voit comme on en a envie votre injonction et on balance tout. Mais ça faisait beaucoup plus de pression. De la part de Google, ouais, que juste de le supprimer de Google News. Alors c'est vraiment, si vous voulez que je vous enlève de cette partie-là parce que moi j'y fais mon gagne-pain, ben tant pis pour vous, vous aurez plus aucun visiteur venant de chez moi. Alors bon, la plupart des gens ont crié, oui, mais de toute façon Google c'est un service privé, ils font ce qu'ils veulent. Le fait est que Google reste le moteur dominant, ils ont une position dominante sur le marché, et si Google supprime un journal comme Le Soir de son index, ça fait mal dans les visiteurs.
Alors, ça fait mal dans les visiteurs, effectivement, oui.
J'en veux pour preuve de prendre les
chiffres
visiteurs
des
chiffres du CIM, effectivement. Si on prend le CIM du 10 juillet, donc le dimanche 10 juillet, Le Soir était indexé par Google, on a 102 000 visiteurs. On prend le 17 juillet, on est à 80 000 visiteurs, donc on prend moins 20%.
D'un coup.
Et retour Google Index, parce qu'après 3-4 jours, effectivement, ils sont gentiment remis d'accord avec CopyPress pour remettre tout le monde sur Google. 111 000 visiteurs le dimanche suivant. Et on a la même chose pour les autres jours, hein. Effectivement, une baisse assez importante, 15 à 20% à chaque fois des visites. Mmh. Alors, je sais plus lequel, à part Le Soir, qui effectivement avait été l'ADH.
L'ADH, la Libre.
ADH Website. Alors, je vais voir si j'ai les chiffres. Ops. Alors, l'ADH, ils sont passés, bah, la même chose, hein, de 104 000 visiteurs le 10 juillet à 91 000. Ils en ont perdu moins. Mais ils en ont perdu tout autant, hein, un bon 10-15% de visiteurs. Je pensais qu'ils en perdraient plus que ça, d'ailleurs. Ouais. Donc, je pensais réellement qu'ils allaient en perdre plus que ça, mais donc ils ne perdent que de 15 à 20% suivant les journaux, mais 15 à 20% de leurs chiffres. Ça fait quand même beaucoup de sous après sur la régie publicitaire et ça fait une grosse pression financière de la part de Google sur les journaux. Hein, parce que si du jour au lendemain, ils peuvent vous dire, bah tiens, tu perds 20, 30, 40% ou certainement beaucoup plus que ça de visiteurs et donc de revenus, ça fait tout de suite, tu fermes ta gueule et tu suis.
Ouais, enfin moi je voudrais quand même juste revenir rapidement sur les motivations derrière l'action. Quelque part, bon, quand on reprend cette fameuse lettre ouverte là qui avait été rédigée par si ma mémoire est bonne, c'était Xavier Daman et Vincent Battaglia.
Sur le site de Rossel. Ouais,
sur le site de Rossel. Il y a quand même une phrase, moi, qui m'a fort frappé, c'est quand ils disent « Nous ne pouvons laisser CopyPress utiliser des lois établies à l'époque du CD-ROM pour saboter les innovations et les merveilles d'Internet sans réagir. » Et c'est vrai qu'un petit peu, on a l'impression de se retrouver ici avec un parallèle relativement flagrant, avec ce qui s'est passé avec les maisons de disques il y a quelques années, quand elles ont été obligées par la force des choses de faire le shift vers le numérique et de dématérialiser leur catalogue online. Et en fait, elles ont commencé par faire de la résistance et s'arc-bouter autour de leurs sacro-saints principes de propriété intellectuelle, matérielle, etc. Et finalement, elles ont réussi à faire le shift. Ça a été douloureux. Il y en a qui ne l'ont pas encore fait complètement. On a un peu l'impression de voir un parallèle avec ce qui se passe ici. Comme si, effectivement, s'il n'y avait pas encore ce concept de dématérialisation de l'information qui est entré dans les mentalités de ces maisons de presse. Parce que quelque part,
c'est pas aussi facile que ça, parce que la plupart de ces boîtes de presse, elles vivent sur des acquis financiers qu'ils ont eus sur sous le papier qu'ils ont vendu. Et la plupart, voire quasi tous, en tout cas en Belgique, et c'est pareil dans beaucoup d'autres mondes, beaucoup d'autres pays dans le monde, la plupart de ces versions électroniques sont pas viables. C'est-à-dire qu'ils ont tous ces journalistes qui produisent du contenu. Heureusement qu'il est payé par le contenu, ce même contenu qui est vendu sur le papier, parce que les versions online ne sont pas viables avec les régies publicitaires. Les régies publicitaires en ligne, ça représente très très peu des revenus publicitaires globaux, et donc tant qu'on n'a pas shifté de ce côté-là, ou qu'ils n'ont pas trouvé un moyen financier de réussir à valoriser le travail du journaliste en ligne, alors soit effectivement ces médias vont crever l'un après les autres, soit on va avoir du journalisme de merde comme on en a aux États-Unis. Alors bon, je vais pas jeter la pierre sur tout ce qui se fait aux États-Unis, mais il y a des fermes de journalistes qui existent. Je pense que AOL le fait en tout cas sur certains de ses sites, et il y en a d'autres. Il y a d'autres journaux qui le font. Comment fonctionnent ces fermes de journalistes? Ils font des recherches. On a les top recherches sur Google. Alors si effectivement aujourd'hui c'est les top recherches, c'est Amy Winehouse parce qu'elle est morte il y a quelques jours, ou que c'est la Norvège, ou que sais-je. Mais si demain il y a plein de gens qui essayent de faire une recherche sur la couleur de la culotte de Britney Spears, eh ben
ils c'est vont... ça qui devient le sujet d'info prédominant.
C'est ça. Sais. Ils vont chercher des news sur, où ils vont chercher la couleur de la culotte de Britney Spears pour en faire un article. Et donc la news n'est plus créée par ce qui se passe dans le monde, mais elle est créée sur
par
ce que
la
les
tendance,
gens cherchent.
Exactement.
Et donc là on en arrive à un journalisme purement commercial.
On en arrive à un journalisme réactionnel purement. Et c'est ce qui se passe déjà en grande partie, dans la mesure où une des sources principales du journaliste aujourd'hui, c'est Twitter. Et Twitter, on sait que les gens balancent tout et n'importe quoi dessus, et on a déjà eu des cas flagrants de news qui ont fait la une de quotidiens de prestige très importants, et en fait, ça venait d'un simple canular. Donc en fait,
ouais, mais là, c'est encore un autre problème de vérification de source qui n'est plus, quasi plus possible sur la plupart des journaux, tellement la pression économique est là. Donc on en arrive effectivement à un problème de.
Ouais. Un de mes contacts sur Facebook a eu une très belle définition du journaliste aujourd'hui. Et bon, je dis ça de manière humoristique, hein. Je ne lis aucun journaliste, mais journaliste, définition d'aujourd'hui, c'est tâcheron qui se contente de recopier les dépêches de l'AFP en réussissant à mettre des fautes d'orthographe en plus. Quelque part, c'est un peu ça.
Malheureusement, l'argent n'est plus là et les gens ne sont pas prêts à payer pour du journalisme de qualité comme on pouvait en avoir il y a 20 ans, 30 ans, grands médias.
À côté de ça, on voit par exemple d'un journal comme justement Le Soir, le groupe Rossel, qui essaye de faire un shift pour l'instant en réorganisant toute l'offre de sa plateforme presse et qui harmonise le produit à travers presse, online, papier, mobile, tablette, etc. Et qui a vraiment l'air de décliner quelque chose de grand.
Et en fait, pourquoi le problème de Google menaçait des publications comme Rossel ou la DH? C'est que certains journaux ont bien compris que la publicité était loin de pouvoir les faire manger, et donc font payer les archives aux visiteurs. Et ainsi, au lieu de devoir payer l'archive chez Rossel, vous pouvez juste aller cliquer sur le bouton « En cache » chez Google. Pourquoi payer?
Exactement, pourquoi payer?
Et donc là, ça posait un grave problème de survie, mais bon, ce en cache, tout le monde pouvait le supprimer de Google sans devoir lui faire un procès, il suffisait de créer un fichier robot.txt. Donc...
Même encore une fois, c'est peut-être pas à la portée du premier webmaster venu.
Bon, ça c'est moche pour les gens de CopyPress, mais parce qu'ils en sont certainement capables. Mais
oui, mais enfin, alors pourquoi direct temps? Encore une fois, tu sors le tank pour dégommer une mouche.
Oui, bon, voilà.
C'est un peu idiot, quoi.
Les deux parties sont un petit peu à pointer du doigt, mais ça finira par évoluer dans les prochaines années pour un autre business model.
Il va falloir qu'ils bougent, parce que sinon ils vont pas survivre, comme tu dis.
Murdoch en a déjà parlé beaucoup dans ses publications, et je pense qu'ils vont faire le pas un jour ou l'autre en passant à du full payant pour leurs infos en ligne. Mm-hmm. Il y a quelques journaux français qui sont aussi en full payant, c'est Rue 89, je pense.
Ouais. Et Le Figaro, non?
Je sais plus, mais il y en a quelques-uns et qui font du bon. Non, c'est paru 89, il a pas l'air payant. Mais
non,
je
le
sais plus
Figaro
comment il
non
s'appelle,
plus.
mais il y en a l'un ou l'autre et ils avaient l'air de faire du bon.
Ah si, si effectivement, le Figaro
Travail.
en intégral web tablette à partir de 12 euros par mois, effectivement.
Donc voilà, on verra comment ça évoluera les prochaines années. En tout cas, pour CopyPress, le chapitre est plus ou moins clos.
Voilà.
On a bien rigolé pendant quelques jours,
Sauf le
sauf
soir,
chez
la DH et
CopyPress.
les autres, quoi, voilà. Alors, le sujet qui suit, oui, effectivement, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc, pourquoi est-ce que le refresh rate s'accélère chez Apple? Bon, pour rire, on a dit pour faire comme chez Google, mais non, en fait, ce qui se passe, c'est que...
Si, l'iPhone 12 arrivera en décembre.
Non, mais de plus en plus de rumeurs. En fait, généralement, Apple avait un refresh rate assez établi, où chaque année, il y avait une nouvelle release au niveau hardware. Bon, il faut constater maintenant, si on fait le parallèle entre ce que Apple fait avec sa gamme mobile et sa gamme plus traditionnelle, le refresh rate, en fait, c'est vachement accéléré.
C'est un par an, en général, qu'ils font.
Oui, généralement, ils font un gros refresh par an, et généralement, ça se passe au niveau de la WWDC. Donc la Worldwide Apple Developer Conference, et généralement c'est à ce moment-là qu'ils font les grosses sorties hardware. Mais ce qu'on rencontre maintenant, c'est qu'il y a plusieurs micro-sorties qui se font de manière un peu plus disparate, et on en veut pour preuve que déjà c'est la deuxième fois cette année-ci que la gamme des MacBook voit une mise à jour, alors que généralement c'est traditionnellement orienté selon des timelines qui sont extrêmement précises. Même chose avec le Mac Mini qui a été mis à jour, l'iPhone 5, ce n'est plus un secret pour personne, il va débarquer relativement bientôt. On parle déjà d'accords réalisés avec les principaux opérateurs téléphoniques en Chine, aux États-Unis et en Europe pour le début du mois de septembre, avec une commercialisation en Europe pour octobre. iOS 5 débouche, les dernières bêtas sont en train d'être évaluées par les développeurs, et la sortie de l'OS est officiellement prévue aussi pour le début du mois de septembre. OS X Lion, la dernière version, est disponible au téléchargement et à l'achat depuis maintenant 4 jours.
Tiens, justement.
Oui, je l'ai essayé, je l'ai acheté, je l'ai installé, c'est fait.
Le Lion, j'ai vu des communiqués passer de chez Apple, ils étaient très fiers. C'est que leur Lion est leur premier essai de logiciel qui ne sera vendu que en ligne.
Oui,
effectivement. Il ne sera plus vendu en boîte. Et alors,
il ne sera plus vendu en boîte, mais il y a toujours moyen de se le procurer sur clé USB pour $69.
Oui, mais ils sont très fiers chez Apple parce que du coup, ils ont leurs statistiques en temps réel des ventes plutôt que de devoir attendre le retour de leur revendeur et que ça remonte. Et ils songent à supprimer tous les CD, DVD, etc. d'installation et de ne faire que du full online sur quasi tout ce qu'ils vont faire dans le futur. Alors, ça peut être très fun pour le consommateur, hein, c'est très bien pour Apple aussi qui du coup bypass tous les revendeurs. C'est très très mauvais pour tous les revendeurs de logiciels.
C'est très mauvais pour tous les revendeurs de logiciels qui vont de toute façon, d'une manière ou d'une autre, devoir trouver un autre business model, vu qu'effectivement la mode du tout online est de plus en plus... Attends, encore une fois, c'est pas une nouveauté. C'est un effet collatéral de ce que Adobe a choisi de faire avec l'achat-location. C'est un effet collatéral de ce que Microsoft a choisi de faire avec Office. En prenant ces modèles d'Office, il y a le modèle de la location qui s'installe, de la location-vente, et donc une dématérialisation. Quelque part, oui, tous ces vendeurs de logiciels aujourd'hui vont devoir se trouver des autres sources.
Oui, mais ça va faire mal à des revendeurs, à la
mal.
FNAC, au Mac même, au shop Apple ou au revendeur Apple.
Je ne sais pas si, non, parce que les revendeurs Apple, bon, faut pas oublier que Apple a une politique extrêmement stricte au niveau de son marketing, ça, on n'apprend à personne. Apple, en fait, va se concentrer de plus en plus sur ses Apple Store, qui sont plus des comment dire, des showrooms de luxe pour les produits Apple, dans des conditions idéales, avec un personnel qualifié, jeune, enthousiaste, beau, bien gaulé, tout ce que tu veux.
Pas défaut comme
Pas défaut comme à Hong Kong, non, mais là, franchement, c'est un truc qui est tellement gros que même les Chinois se sont plaints.
oui,
Évidemment,
non, c'est
il
trop
a quand même
fort, quoi.
fallu un mois pour qu'ils se rendent compte que c'était un faux Apple Store.
C'est
Parce que
pas un
ça faisait...
Chinois qui l'a vu, hein, c'était un touriste.
Oui, parce que ça faisait un mois qu'il attendait sa facture. Non, ça c'était fort quand même. Mais donc voilà, les Apple Store vont devenir des showrooms de luxe, ce qui sont déjà en grande partie, mais la tendance va se confirmer de plus en plus. Et je me demande dans quelle mesure toutes ces enseignes dédiées, comme par exemple Camille ou McLine, en Belgique, vont pouvoir continuer à garder une certaine autonomie par rapport à ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Camille, on sait déjà qu'ils ont dû se diversifier, qu'ils ont dû développer d'autres activités parce que la revente pure de matériel et de soft Mac, comme ils le faisaient avant, n'était plus suffisante pour assurer une autonomie financière. Donc quelque part, voilà. Et puis bon, faut se mettre à la place du client. Moi, j'ai fait le test juste avant de partir. Je suis allé à la Fnac comme un brave bourrin pour demander s'ils avaient des iPad 2 en stock. Le type me dit non, vous devez réserver tout ça. Bon, soit, d'accord. Et puis en regardant comme tout bon geek sur mon GSM, je vois qu'il y a un MacLine à 30 mètres. Donc je vais chez MacLine. On m'accueille de là. J'ai à peine passé le pas. J'ai trois vendeurs qui me sautent dessus. Et je leur demande s'ils ont des iPad 2. Ah non, monsieur, vous devez réserver, commande uniquement, et il faut compter au moins 45 jours. Attends, je vais sur le web, je l'achète, terminé, hein, je l'ai en 3 jours. Voilà, et sur Apple même. Donc, quelque part, tous ces magasins, je me demande ce qu'ils ont comme valeur ajoutée encore aujourd'hui.
C'est une bonne question. Le service et le support, en principe.
Le service et le support, en
En
principe.
pratique, oui, c'est du principe. La réalité, des retours de certains magasins, et pas que dans l'informatique, la ménagère commence réellement à se déplacer ses achats vers l'achat en ligne.
Absolument.
Et ça commence à faire mal à pas mal de commerces. Bon, heureusement, il y a pas mal de trucs de service qui pourront jamais être dématérialisés, donc on aura encore besoin de bars, cafés, restos et tout ce qu'on veut. Mais
Mais tout
les
ce qui est
ventes en ligne
achat.
commencent à décoller. Et c'est problématique pour la Belgique, parce que en Belgique, il y a très très peu de magasins qui ont des shops en ligne. On est en retard de plusieurs années, et des années sur le web, ça fait mal, par rapport à la Hollande et la France. Et donc voilà, les consommateurs belges font leurs achats, toi et moi hein, aussi, j'en veux pour preuve, en France, et on est livré le lendemain matin en Belgique.
On vient encore de le faire, on vient d'acheter un laptop et le laptop demain matin, il sera là, quoi.
Alors qu'il vient de la
Il vient de
frontière
Hollande,
hollandaise.
voilà.
Mais donc voilà, ça pose problème à ces petits magasins belges de voir cette concurrence en ligne. Donc là aussi, on verra dans les années qui viennent comment ça va se changer, comment ça va évoluer, mais il est temps pour certains
De réussir à faire le shift, oui.
de passer en ligne.
Enfin, il restera toujours Madame Pichemou qui continuera à aller au Vandenbord du coin pour acheter son sèche-linge.
Alors en fait, c'est pas certain.
Non, c'est pas certain parce que mon dernier lave-vaisselle, je l'ai acheté online.
Il y a des concept stores qui commencent à débarquer. Ça se fait dans d'autres pays. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui arrivent à Bruxelles. Le concept store, c'est un petit peu comme ton Apple Store que tu viens d'expliquer. Mais ici, c'est prévu comme tel, c'est-à-dire que Madame Pichemou, elle veut son lave-vaisselle, mais tu vois, la photo, ça lui suffit pas. Elle veut quand même voir une fois le toucher, voir la qualité du plastique et voir s'il résiste à son mioche de 5 ans.
Et donc
Et
elle va
donc
aller voir en vrai son
dans un
lave-vaisselle
store,
dans un
c'est ça.
concept store et puis elle pourra choisir où elle va l'acheter.
Et puis ce sera en ligne uniquement, effectivement.
Voilà. Ouais. Bah écoute, de toute façon, la dématérialisation, elle va arriver de plus en plus à tous les niveaux. Comme tu dis, il restera certains services qu'on ne peut pas dématérialiser. Il y aura une grosse partie des trucs qui vont devoir s'adapter. Et ça va être les gros enjeux des 10 prochaines années.
Ouais, en effet. Donc vivement la suite et puis bonne chance à ceux qui sont dans la vente
Ouais.
pour trouver une bonne solution.
Exact. Donc, on commence notre nouvelle rubrique.
Le fait d'hiver.
Le chien écrasé du web.
Le fait d'hiver en plein été.
Voilà, exactement.
Ça, oh, les jolis. Le jeu de mots du jour.
Quoi. Le jeu de mots pourri du jour. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos chiens écrasés?
Chien écrasé, un peu respectueux. Mais alors, on va commencer par les chiens écrasés amusants. Hein. Sinon, ça fait tout de suite pas gentil. Alors... L'agriculteur français qui se la coupe avec la fibre optique.
Oui, le type qui a été jaloux.
C'est incroyable.
Mais on ne sait pas ce qu'ils ont pour l'instant. Hein. Attends, c'était quoi? C'était une Moldave ou une Géorgienne qui avait niqué Internet en Arménie avec un coup de pioche. Donc maintenant, c'est un agriculteur français qui a coupé une fibre optique. Et voilà, donc 15 000 ou 20 000 foyers privés de téléphone, d'Internet, de télé, tout ça. Alors, l'horreur, le retour à l'âge.
Je me pose une question quand même.
Ouais.
C'est que, de nos jours, à la base, quand l'Internet a été créé...
Oui.
Tout le monde disait c'est un réseau qui peut, même si on coupe un nœud, continuer à fonctionner de manière quasi normale.
Oui.
Et aujourd'hui, quand tu vois comment ça se passe avec les fibres, en gros, plutôt que d'avoir 150 câbles qui vont dans tous les sens, ils ont une grosse fibre qui passe, qui traverse tout le pays. Et s'il y a un con qui pète la fibre...
Comme ça vient d'arriver...
Tout le pays est par terre. C'est arrivé dans les pays de l'Est, c'est l'Arménie ou autre, où il y a eu
oui, effectivement.
Tout un pays qui est coupé à cause d'un coup de pioche, un coup de tracteur.
Donc, en fait,
on parle pas d'un petit nœud, on parle de gros nœuds et qui sont pas dédoublés. Et voilà, comment est-ce que un fournisseur, enfin oui, ça coûte cher certainement de placer des fibres, on est d'accord, mais n'empêche. Quelle vulnérabilité pour tout un pays de savoir que un petit truc de quelques millimètres de large avec un coup de pelle on fout un pays par terre.
Ouais, donc se pose en fait la double question. Premièrement, comment se fait-il qu'il ne soit pas plus protégé? Parce que bon, attends, un tracteur qui laboure son champ, il va pas profond, quoi, il va quoi, 50 centimètres. Donc déjà, c'est pas aussi grave que la conduite de Guy Languin chez nous, mais enfin pour certains, si ne pas avoir internet, ce sera plus grave. Donc premièrement, comment ça se fait que ce soit pas mieux protégé? Et puis oui, effectivement, on est complètement en opposition avec les principes de base. Du déploiement physique d'Internet, où c'était des nœuds multiples, où c'était des routes multiples, où chaque nœud détruit pouvait être contourné. Ici,
quand il y a une route qui est foutue, tu peux en utiliser une deuxième.
Exact.
Mais si t'as qu'un fil ou que le deuxième il passe au même endroit,
elle
est mal barrée, quoi.
Tu l'as, ben là, quoi.
Pour certains, j'espère qu'ils comprennent que c'est un signal d'alarme de, on met pas qu'une seule fibre pour câbler un pays.
Ou alors, si vous la mettez, mettez-la profond.
Oui,
blindez-la, mettez-la profond. Blindez-la, ou bien ce sont vos utilisateurs qui l'auront profond, quoi.
Oui, c'est, personne, ça me fait peur, parce que au lieu d'avoir un acte de terrorisme qui va les faire exploser Bruxelles, si vous les mettez un pays par terre,
vous coupez deux fibres et puis c'est tout.
Et si réellement c'est fait pour nuire, à partir du moment où vous savez que la fibre à un certain endroit va mettre un pays par terre, ben, vous la pétez un jour, le lendemain elle est remise, ben, vous n'êtes pas obligé de la péter au même endroit, hein, c'est la même fibre 100 mètres plus loin.
Exactement.
Ça reste assez...
Enfin, chez nous, on a déjà des... Oh non, on va pas le dire, non, c'est trop méchant. J'allais dire, chez nous, on a déjà des gens qui font de l'excès de zèle en se prenant les pieds dans les prises des switches dans les data centers de Vilvoorde. Voilà, c'est dit. Mais ça fait un petit temps maintenant, c'est vrai, faut dire.
Mais c'est la même chose, hein, pour
ouais, ce
provider ici qui visait tout sur un seul data center. Bon, évidemment, c'est une question de coût, hein, c'est certainement beaucoup plus efficace, mais c'est vachement dangereux.
C'est vachement dangereux, effectivement, ouais, parce que bon, quelque part, on n'a pas inventé la redondance pour rien, quoi.
D'ailleurs, regardez, informaticien, il y a la redondance, il y a 15 serveurs, ou pas. Ah ben non, il y en a qu'un.
14.
Mais, donc oui, il y a des questions de coût derrière, mais pas au niveau national. Ici, maintenant, t'as toute une économie locale ou nationale qui peut être mise par terre avec un coup de bêche.
Ouais.
Toutes les entreprises françaises ou belges technologiques et même les autres, elles ont besoin d'internet. Elles n'ont pas d'internet, elles sont au chômage technique.
Faudrait peut-être prévenir d'ailleurs nos visiteurs, du moins ceux qui nous écoutent, que début de septembre, il va y avoir une grosse mise à jour technique chez nous. comme ça. Ne vous inquiétez pas hein, si début septembre ça lague un peu, mais
modification de déplacement du serveur.
Voilà donc les.
Bon, ce sera certainement fait en août et personne verra rien.
Ouais, mais enfin, comme ça, que vous sachiez, allez, nos petits serveurs, ils vont prendre leurs petites jambes et ils vont aller dans un nouveau data center. Voilà.
Oui. Mais ce sera fait calmement, délicatement et personne ne verra rien.
Exactement. Transparence.
Complète. Complète. Mais on vous préviendra au cas où. Que ce soit un grand jour noir. Dans les autres faits divers, il y a juste
Google qui devient le prolongement de notre cerveau.
C'est
oui,
un peu le même que le précédent. Il y avait eu toute une étude qui était faite, qui est passée à l'RTBF et d'autres journaux, que Google nuidait à la mémoire parce que au lieu de se souvenir du nom du chanteur qui est mort il y a deux jours, c'est hop, on reprend vite le chanteur et à ce moment-là on ressort le téléphone et on revérifie vite dans les titres d'il y a deux jours pour se souvenir du nom.
Et du je vais te dire que c'est pas faux et je m'en suis rendu compte avec horreur moi-même.
En vacances pendant deux semaines sans internet.
Non, en vacances avec quand même un accès 3G limité sur mon GSM. Au petit déj, le gamin qui me pose une question. Je ne sais plus ce que c'était et je ne vais pas aller voir sur Google pour savoir ce que c'était. Le gamin qui me pose une question bien pourrie comme à son habitude et le premier réflexe a été bon Wikipédia au lieu d'essayer de me rappeler la réponse quoi. Donc c'est vrai, tout ça a tendance à atrophier notre
mémoire. Pendant les films, on regarde un film avec ma femme et puis
IMDb,
tu sais
claque, voilà.
Voilà, tu sais dans quoi il jouait. Oui, pas de problème, je te le trouve tout de suite, chérie. Et on devient des mous du gland.
On devient des mous du cerveau, ça c'est vrai quoi.
Oui, non c'est vrai, le gland va bien, mais le cerveau.
Le gland. effectivement.
De temps en temps, il faudrait des journées faisant travailler la mémoire. Voilà. Ouais. Deuxième explication plus rationnelle, peut-être qu'on utilise notre mémoire à d'autres choses plus intéressantes et qu'on sait enfin qu'on peut mettre ça de côté et que c'est pas important.
Ouais, c'est juste.
J'ose espérer qu'on utilise la mémoire d'une autre manière.
Disons qu'on l'utilise de manière plus optimisée et que tout ce qui est futile et pas important est relégué au...
C'est l'informaticien qui va dire qu'effectivement, de toute façon, c'est bien, non?
C'est optimisé, effectivement.
Ouais, qu'est-ce que t'en penses?
Non, on va dire ça.
Il y a un autre fait divers qui m'a choqué en tant que Nivellois, si on veut
dire.
Ouais,
mais attends, on va encore en mettre un plus gai avant d'arriver au truc sérieux, si tu veux bien. Oui. Et c'est un truc sur lequel je suis tombé deux secondes avant qu'on commence l'enregistrement, et ça m'a bien fait rire. Alors vous savez tous que Samsung, nos chers copains de chez Samsung, ce sont les premiers à avoir sorti de la 3D à tous les étages. Hein, s'ils pouvaient sortir des chiottes 3D, ils arriveraient à le faire. Eh ben Samsung, ils viennent de publier une étude qui dit que la 3D c'est mal. Donc en gros, la 3D provoque des dérèglements et des dysfonctionnements oculaires sévères. Alors ça, nous, on n'avait pas attendu que Samsung nous le dise pour s'en rendre compte. Les nombreux maux de crâne que je me suis tapé en allant voir des films en 3D au ciné, à tel point que maintenant, je vais plus voir que de la 2D, me l'ont bien dit. Mais que ce soit un constructeur qui pousse toute sa stratégie marketing sur la 3D, jusqu'à en foutre sur les mobiles, qui nous disent mais attention la 3D c'est pas bien. Ça je suis désolé, ça me fait rire quoi.
C'est, ouais. N'empêche, hein.
N'empêche quoi ? Oui, la 3D.
Je sais pas.
Non.
Ouais, non, on continuera à en avoir dans tous les étages quand même. Ça
exactement.
Sera, l'abus nuit certainement à la vue sans hésiter. D'ailleurs, j'ai une 3D, c'est vrai que ça fait un peu
ça fait mal.
Ça fait un peu mal mais tant que ça ne nuit pas à notre vie sexuelle, dirons-nous.
Oui. En 3D, non, même pas, non. Alors,
je ne sais pas, parce que justement, Nintendo avait sorti une nouvelle application sur la 3DS pour voir des concerts, des machins, des vidéos en 3D, et la plupart étaient accessibles gratos. Je n'ai pas encore installé.
J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais dire que...
Que c'était magnifique et qu'il y avait des trucs de cul. Non,
attends, oui,
c'est
non,
Nintendo, attends. Ils vont pas mettre... C'est pas un Mark Dorcel, c'est Nintendo.
Ouais, en plus, Nintendo en 3D, Mark Dorcel, non, Dark.
Non, évidemment que non. Alors, autre fait divers.
Oui,
alors,
là, c'est du sérieux. Enfin,
ouais, là, c'est un petit peu aussi, de nouveau, une question, existentielle. Il y a effectivement eu un problème avec un Nivellois, mais quel que soit le type de problème, importe peu, mais ici, c'est un meurtre en France, sur l'autoroute, et puis... on dit hein, ça a été filmé, blablabla, il y a toute l'histoire, mais on vous passe, ça c'est pas de toute façon notre rayon, hein, les chiens écrasés, ni enfin sans mauvais jeu de mots, désolé. Mais bref, sur certains sites d'info, ici, ce qu'on a pu trouver, alors j'étais scotché sur ma chaise quand j'ai vu ça, c'est que bon, y a toute l'explication du crime d'une manière un peu sordide, et puis après, il y a une visite en 3D virtuelle de la scène du crime. Tu vois, mais pas un truc reconstitué, quoi, des photos prises sur place, Google Maps, Google et Street View, et tu peux aller te promener dans le parking, aller zoomer et aller voir où est-ce que le gars a été tué. Et je trouvais ça, mais d'un glauque.
Oui, mais c'est glauque. Mais bon, quelque part, c'est, comment dire, c'est tout à fait en phase avec ce que vit la presse, enfin avec le phénomène de peopleisation et de allez, comment on va dire, de sensationnalisme que vit la presse depuis quelques années, où il faut que ça soit toujours plus marquant, toujours plus glauque, toujours plus secouant, toujours plus. Tant les gens avec l'actu de base, ils s'en foutent hein, maintenant, ça passe comme une lettre à la poste.
Mais attends, quand
Il
tu
faut
vois
un truc
ça,
qui remue les tripes, et les gens sont de plus en plus voyeurs.
le
S'ils
truc
pouvaient voir le
suivant,
type en
c'est...
train de baigner dans son sang, ce serait encore mieux
Ouais,
pour eux.
le truc suivant, c'est quoi? C'est comme dans les films, quand on arrive à 15 000, ça y est, je l'égorge, et avec la vidéo qui tourne
Exact,
derrière.
exact,
Allez,
exact. Tapez
ça
un
c'est...
pour égorger Sylvain, tapez deux pour égorger Jean-François, tapez trois pour égorger, je sais pas. Oui, non, un jour on va y arriver. Saut en live et en jeu télé-réalité, pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? Non, bien sûr. Attends, si j'interdis formellement à tout producteur qui écoute cette émission d'appliquer ce truc, mais attends, on y arrivera. On y arrivera, des trucs de ce style-là.
Et ça peut être le parfait
Rappelle-toi.
ici pour la Norvège, mais est-ce qu'il y en a aussi quelqu'un qui va aller nous faire visiter l'île du massacre
Ah,
ou
certainement, certainement, certainement. Tu vas avoir des tonnes de
le
photos.
truc de l'explosion en 3D, en vidéo
Certainement, certainement. Deux choses, on est déjà devenu de plus en plus une génération presse image. On n'est plus au niveau texte, on ne lit plus rien. Les textes sont minimaux, les textes sont simplifiés à l'extrême. C'est uniquement pour de l'image qu'on va voir la presse aujourd'hui, principalement. Et il faut des images choc. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va te montrer là où le pauvre gars s'est fait buter, quoi qu'il se soit passé. C'est pas ça le fait. Encore une fois. Mais on va te montrer là où il s'est fait buter pour que tu le sentes bien, vraiment, pour te faire partager l'aspect glauque et malsain de la chose. Et plus c'est glauque et plus c'est malsain, plus ils vendent.
Ouais, ok. C'est vrai que c'est bizarre.
C'est très bizarre.
C'est bizarre.
C'est très bizarre.
Enfin, voilà, ça m'a laissé
Ça laisse un sale goût dans la bouche.
pantois et un petit peu, ouais, un petit goût amer.
Ouais.
J'aurais pas dû regarder cette page, alors qu'en fait c'était juste un Google Maps, mais
Ouais, ben ça
voilà.
fait, oui.
Il te manquait plus qu'effectivement la tache de sang au bon endroit pour que tu saches aller voir.
Mais ça, je peux te dire qu'ils se sont pas privés sur les photos qu'ils ont publiées, parce que des photos sur Oslo, il y en a eu des centaines. Je parle pas forcément de celles qui sont reprises sur les grands sites officiels, style Figaro, Libé, etc. Non, moi je te parle des blogs d'info, les blogs qui font de l'info pure et qui ne font que ça. Il y a eu des photos, mais je vais pas dire qu'il y avait des bouts de chair avec, mais pas loin, quoi. Oui, ben effectivement,
Ouais,
ça.
d'ailleurs, je me souviens avoir vu sur le site de Rossel que soi-disant ils avaient la vidéo exclusive du double attentat, enfin bref, un truc que
Rappelle-toi
j'ai
quand
plus
Ben Laden est
été
mort,
voir.
les montages pourris qu'ils nous ont faits, c'était un peu immonde, hein. Tu voyais ça avant d'aller bouffer, t'avais plus faim, quoi.
Enfin, je ne les félicite pas.
Non.
Je pense que
Ben,
c'est tout pour les faits divers, hein,
c'est tout pour les chiens écrasés, ouais. Ben on va boucler, hein. Ok, t'as encore quelque chose?
Ouais, mais les virus au web banking.
Ah oui, c'est juste, c'est juste, c'est
On l'a
juste, c'est
loupé.
juste. Ben c'est quoi donc les virus
Les
webbanking?
virus, les virus. Alors, je
Les
ne sais pas,
virus.
mais j'ai vu un message bizarre il y a quelques jours. Alors, on me le confirme aujourd'hui chez Dexia. En tout cas, d'autres utilisateurs auraient le même message et qui auraient des problèmes ce matin. C'est que quand tu regardes le site de Dexia, nous annonce un petit texte. Il dit: Nous avons été avertis qu'un virus attaquant certaines applications bancaire avait infesté le PC de certains de nos clients. Par mesure de précaution, nous vous rappelons que la touche M2 sert exclusivement à confirmer vos transactions, mais jamais à confirmer votre identification. Gna 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 gna, s'il y a quoi que ce soit, veuillez nous appeler à la tout laïus habituel.
Ouais, je
Alors, en
l'ai juste
fait,
devant moi, oui, effectivement.
De un, comment ça se passe? C'est quoi le M1 et 2? Donc si vous avez un web, si vous n'avez pas un web banking Dexia, vous pouvez peut-être pas comprendre, mais ça se fait dans d'autres banques.
Dexia, oui, Dexia et BNP
Ben
le font.
oui, et Fortis et Argenta et plein d'autres. C'est une petite calculette où vous mettez votre carte et puis vous avez deux touches, M1 et M2. La première sert à vous identifier, la M2 sert à signer. Donc l'identification sert à pouvoir rentrer sur le site et la signature à envoyer le virement. Le problème, c'est que certains virus, c'est pas la première fois d'ailleurs
Non, c'est
que
pas la
ça se
première
passe,
fois.
remplacent certaines parties du code source à la volée sur votre machine pour dire, au lieu de faire un M1 ou à la suite du M1 en même temps, on vous fait directement un M2. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ils
Il
viennent
y
de
a une
signer une
interception, voilà.
transaction. Ils viennent de signer une transaction pour que vous envoyiez des fonds sur un compte d'un brave pirate et qui partira avec vos sous en vacances. Alors, quelle est votre responsabilité? Ça, c'est une autre question qu'effectivement Dexia et les autres web banking vont jamais mettre en avant. C'est que il y a 10 ans, quand on commençait les paiements en ligne, les gens avaient juste une carte de crédit classique. Ce que je racontais ici, que ce soit en carte de crédit ou en paiement bancaire, est assez similaire. C'est que donc vous aviez une carte de crédit avec juste le numéro à recopier quand vous faisiez un achat en ligne ou par fax ou autre, et la signature avait preuve de effectivement certification sur le paiement. Hein. Donc c'est la signature, hein, c'est votre signature, vous la reconnaissez, blablabla. Mais quand moi, acheteur, je disais à Visa, non, écoutez, c'est pas ma signature, j'ai pas acheté, Visa vous rembourse, le commerçant est de la revue. Donc, à un certain moment, les commerçants ont commencé à faire un petit peu de lobbying, dire, écoutez, c'est quand même pas normal, nous, on a besoin de sécurité, quand on vend du matériel, on doit être payé, etc. On peut pas, il y a eu beaucoup de piratage. Donc,
C'est
tout le
logique.
système Visa a évolué vers un système qu'ils appellent trois tiers. C'est-à-dire que il y a trois tiers, le commerçant, Visa et le consommateur, et ces trois tiers doivent être sécurisés. C'est-à-dire que le commerçant doit accepter d'utiliser un nouveau protocole avec une évolution de son site web. Visa propose évidemment la banque, pas Visa.
De la
Le
banque.
troisième tiers, c'est la banque propose effectivement cette identification sur son consommateur. Et le consommateur final qui a besoin d'un nouveau système d'identification, le Digipass en l'occurrence. Alors, le commerçant, lui, il a vu vite fait de passer son système en compatibilité trois tiers parce que ça lui garantissait que tous les paiements qu'il recevait étaient pour sa poche. Donc voilà, il était sûr qu'il n'y avait plus de fraude, entre guillemets. La banque, vu qu'il devait faire évoluer leur système, ils ont gardé pendant quelques années, certains plus lentement que d'autres. Ils disaient, bon, mais moi, ça me coûte X millions d'euros de faire ce développement pour le trois tiers. La fraude que je rembourse, parce que c'est maintenant, ce n'est plus le commerçant, mais c'est la banque qui prenait la responsabilité. Mais si c'est, ça équivaut pas encore à ce que ça va me coûter en développement, alors je le fais pas. Donc maintenant, elles y sont toutes passées, quasi, hein, que je sache. Alors, vu que c'est plus le commerçant, vu que c'est plus la banque. Maintenant, la responsabilité, elle est sur
Le
toi
consommateur.
et moi, le consommateur, avec sa calculette. Ce qui signifie, on en arrive au virus et à la calculette, que
Que
si...
si ton PC est infecté, c'est ta responsabilité.
Tout à fait. Si ton PC est infecté ou si quelqu'un a ta carte Visa avec ton code et qui a donc réussi à faire une signature, tu l'as dans l'os. On considère que la transaction est bonne, t'avais qu'à pas donner ta carte avec ton code.
C'est un peu violent, non?
Oui, mais ça s'appelle la sécurité Internet du troisième millénaire pour les paiements en ligne. Tout le monde a vanté ça comme étant la nouvelle sécurité magique avec les Digipass. Le consommateur n'y a vu que du feu parce qu'il dit ouais, c'est génial, on pourra plus utiliser ma carte autre que. Non, effectivement, on pourra plus utiliser ta carte pour un virement. Mais tout virement qui pourrait ou tout paiement qui pourrait être fait avec ta carte sans ton consentement, moyennant cette sécurité, parce qu'on peut toujours faire, il y a toujours le système qui fonctionne à l'ancienne en même temps maintenant. Eh ben, tous ces paiements, c'est pour ton dos. Et donc le virus, ça c'est clairement dans les contrats. Si vous avez un virus, c'est pas la faute de la banque.
Ouais, effectivement, enfin, la démarche est assez tendancieuse, je trouve, si je peux me permettre, parce
Ben, ils
qu'il
n'ont pas de
faut.
moyen de sécuriser autrement. Hein. Si le gars a un virus sur sa machine, le gars a un virus, on ne sait pas faire autrement. Mais les gens s'en rendent pas spécialement compte.
Les gens ne s'en rendent pas spécialement compte, effectivement, et ça me fait penser un peu à toute la polémique qu'il y a eu en France avec la fameuse loi Hadopi, où enfin, en bout de chaîne, le responsable de toute fuite ou de tout piratage était la personne à partir de laquelle le piratage avait été fait physiquement. Si une personne était trop peu au fait des choses techniques pour protéger convenablement sa connexion Wi-Fi ou son PC et de mettre pare-feu, firewall, machin, tout ce que tu veux, pour sécuriser l'accès à ses données et à sa connexion, ben c'était lui le responsable. Donc quelque part ici, ce sont encore une fois les gens qui n'ont aucune compétence technique et qui achètent un PC au petit cousin du frère de leur neveu parce que il s'est monté un PC et qu'il est bien gentil. Ben voilà quoi, ils vont se retrouver pigeons.
S'ils se prennent un virus dans les dents, effectivement, et qu'ils font des paiements, que ce soit le mauvais virus qui attaquait le bon Dexia. Parce que,
Ouais.
bon, après, il faut encore qu'on soit targeté
Oui,
par le bon
d'accord.
virus, et la probabilité est quand même
Oui,
infime. Mais
d'accord. Oui, effectivement.
bonjour, voilà.
Disons que
Bonjour les dégâts.
la décharge de responsabilité est quand même relativement importante, je vais dire. Pour toi et
Oui.
moi, non, on s'en fout parce qu'on sait ce que ça implique
Oui, mais est-ce
et
que tu le
que.
savais quand toi tu as reçu ton Digipass en tant que non-développeur que bah, c'était ton arrêt de mort?
Non, je ne m'en souviens. Non, je
On
ne
s'en rend
m'en
pas spécialement compte,
je m'en
hein.
rends pas spécialement compte, mais à mon niveau, à moi, je m'en fous un peu, puisque moi, je sais que je fais tout ce qui est nécessaire pour que je travaille sur un environnement sécurisé et
Oui, mais t'es
que.
jamais à l'abri d'une erreur, hein. Un virus qui soit pas reconnu, ou que sais-je, t'as perdu ta femme, ta carte avec la code PIN, et elle a été skimée, c'est comme ça qu'on le dit, je sais plus. Ou elle a été
Ouais,
copiée,
peut-être.
aujourd'hui on sait pas copier la puce, mais qui sait demain si on n'a pas un formidable pirate qui a réussi à copier la puce et à pouvoir retrouver le code PIN pour pouvoir la signer, bah, tant pis, on dirait que ça a été signé, tant pis pour toi. Hein.
Ouais, d'accord. Mais alors, on va arriver à quoi? À une déresponsabilisation totale de la banque et à un rejet de toute la responsabilité et des contraintes qui vont avec sur le consommateur. Attends, avoir un compte en banque, ça va devenir un métier à risque, hein?
Écoute, mais jusqu'à ce qu'un jour la puce soit piratée. Si la puce est piratée un jour, c'est la fin du monde.
Oui, alors à ce moment-là, on aura des protections holographiques et chaque PC sera censé avoir un lecteur de fond d'œil et avec analyse ADN comme dans Gattaca et voilà. On va y
Et on
arriver.
fera un fichier des empreintes génitales, comme disait le.
Ouais.
Une des plus belles bafouilles de.
C'était qui
En
ça
France,
encore? La ministre, enfin la députée.
le ministre,
C'est pas Dati? Ah non, Dati, c'était la
non,
fellation, c'est juste.
attends, empreinte, c'est
Empreinte génitale. Oui, c'est
et il
juste.
a une sale, il était, pardon, il était pas beau, c'est un Hortefeux, Brice Hortefeux, celui qui voulait foutre tous les étrangers dehors.
Ah ouais, voilà.
Ouais, un fichier des empreintes génitales.
Ouais. Ouais,
Voilà,
petit, si
voilà.
tu veux. Voilà.
Ça, c'est fait.
Ouais, ça c'est fait. Et elle est faite d'ailleurs, hein.
Ouais, bah on est bon, hein?
On est bon. Donc les petits trucs habituels, les concours, les machins, tout.
Oui, c'est vrai, ça fait un bout de temps qu'on n'en a plus parlé, mais il y en a toujours. Des concours sur le site, d'ailleurs, juste en dessous du bouton actualité, ils sont pas extrêmement grands, mais on les voit maintenant que vous avez entendu. Qu'est-ce qu'on peut gagner pour le moment? Il y a 3 fois Cosmic Destruction sur 360, il y a un Revenge of the Titan sur PC, et il y a 2 YouStar 2 sur 360 encore une fois. Qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois? C'est pas très difficile, c'est une petite photo, un petit logo. Et si vous êtes dans les meilleures photos, ce qui est en général pas très difficile, hein, il n'y a pas des milliers de gens qui jouent, à vous pas les brousoufs, mais les jeux.
C'est déjà pas mal.
Voilà.
Et sinon, pour le reste,
Voilà, rendez-vous au 11e podcast.
Rendez-vous au 11e. Continuez à nous envoyer des commentaires. Continuez à nous suggérer des sujets d'actu. Et voilà. Et si un jour vous voulez briller sous les feux de la rampe et participer, ben voilà. Hein. On vous l'a déjà dit. Tout ce qu'il vous faut, c'est un PC, une connexion, un Skype, un bon casque. Et on sera heureux de papoter avec vous.
Oui, des choses à dire aussi.
Moi aussi. Ça peut aider. Voilà. Enfin bon, même quand on n'a rien à dire, on arrive quand même à meubler.
Oh. Allez, passez une bonne semaine et bonnes vacances pour certains. Et puis à bientôt.
À bientôt dans 15 jours.